Louis XIII traîna et bailla sa vie, et le plus grand service qu'il ait rendu à la France est d'avoir maintenu Richelieu au pouvoir. Henri Blas de Bury, Revue des Deux Mondes, 15 août 1876.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Né en 1585, évêque de Luçon, Richelieu est une des figures marquantes de l'histoire française et européenne au XVIIe siècle. À partir du 29 avril 1624, il est membre du Conseil du roi. Il y est entré grâce à l'appui de la reine-mère Marie de Médicis, dont il a été un proche pendant les années de régence, lorsque le jeune Louis XIII était trop jeune pour gouverner lui-même. Et il avait subi l'élimination et les contre-coups de cette élimination de Concino Concini, favori de la reine Marie. Il a œuvré ensuite au rapprochement entre la mère et le fils dans les années 1619 et 1620. La couronne française lui obtient le chapeau de cardinal en 1622. Une fois au Conseil, Richelieu a trois objectifs majeurs. D'abord, combattre l'influence politique du parti protestant. S'il admet la liberté de culte qui a été reconnue par l'édit de Nantes, il ne supporte pas l'idée des forteresses que tiendraient des troupes au service des protestants. Ainsi, ces places de sûreté sont un objectif majeur de sa politique. En 1628, il met le siège devant La Rochelle et, après la capitulation de la ville, il obtient l'édit de grâce d'Alès en 1629, où il reconnaît la liberté religieuse pour les protestants, mais fait supprimer par le roi les places de sûreté. Deuxième objectif de sa politique, c'est abaisser les grands. Il veut mettre fin à ces révoltes nobiliaires qui, depuis le XVIe siècle et au début du XVIIe, marquent l'histoire politique de la France. Aux yeux des grands, ces révoltes sont des marques de liberté, car ils veulent participer aux affaires de l'État. Aux yeux de Richelieu et de son maître, Louis XIII, ce sont des phénomènes qui affaiblissent l'autorité du roi, et donc qu'il faut combattre. Enfin, troisième grand objectif, c'est la lutte contre les Habsbourg, qui règnent à Madrid et à Vienne, et qui apparaissent comme une puissance encerclant la France, et qui en tout cas vise à l'hégémonie en Europe. Or, cette politique est en opposition totale avec la politique défendue par le parti dévot, c'est-à-dire le parti ultra-catholique, qui est représenté, entre autres, par la reine-mère, Marie de Médicis, par le garde des Sceaux, Michel de Marillac, est plus ou moins soutenu par l'instable Gaston d'Orléans, qui est l'héritier du trône. Pour eux, l'objectif politique ne doit pas être de résister aux Habsbourg, mais au contraire, de créer une internationale catholique qui, quitte à admettre la puissance des Habsbourg, permettrait finalement de combattre l'influence protestante en Europe. Marie de Médicis s'aperçoit un peu tard que, en mettant le loup dans la bergerie, c'est-à-dire Richelieu au conseil du roi, elle a finalement œuvré contre le parti dévot. Dès lors, la reine-mère va avoir pour objectif d'éliminer Richelieu, d'obtenir sa disgrâce. Elle croit obtenir cette disgrâce lors d'un passage de la cour à Lyon. En septembre 1630, revenant du front des Alpes, la cour s'arrête à Lyon. Le roi, depuis le mois de juillet, est fatigué. Il souffre de terribles maux d'estomac et sa santé ne cesse de s'affaiblir. À la fin du mois de septembre, il semble que la mort approche. On fait dire des prières publiques dans les églises du royaume. On célèbre des messes dans toute la ville de Lyon, et on attend la mort du souverain. Or, la reine-mère presse le moribond à rejeter Richelieu et à obtenir sa disgrâce. Richelieu lui-même semble admettre que finalement il ne pourra pas rester au pouvoir et que la disgrâce se rapproche. Or, le 30 septembre 1630, l'abcès intestinal qui faisait souffrir Sa Majesté crève et le pus est évacué par voie anale par le souverain. À quoi tient le sort d'un principal ministre ? Richelieu est provisoirement sauvé. La cour quitte Lyon et rentre à Paris. Le 9 novembre se tient un conseil au palais du Luxembourg. Le roi est présent, ainsi que la reine-mère et le garde des Sceaux, Michel de Marillac. Pour plaire à celle-ci, Richelieu accepte que Louis de Marillac, le frère du garde des Sceaux, soit nommé à la tête des armées d'Italie, même s'il n'est pas persuadé de la pertinence du choix. Le 10 novembre 1630, a lieu un entretien entre Marie et Louis XIII. La scène est, au début, un duo. Seul à seul, la reine-mère et le roi parlent du sort de Richelieu. La reine presse Louis XIII d'en finir avec ce mauvais Français, ce mauvais catholique, ce cardinal qui trahit les intérêts de la Sainte Église, et espère bien obtenir, cette fois-ci, le renvoi définitif de Richelieu. Or, là encore, il va y avoir un élément de surprise. Le 10 novembre toujours, Marie de Médicis avait indiqué à Richelieu qu'elle lui retirait toutes les charges occupées au sein de la maison de la reine, c'est-à-dire surintendant de cette maison, chef du conseil particulier de la reine-mère et grand aumônier. Il semblait bien donc que la disgrâce du cardinal se rapprochait. D'autre part, le lundi 11 novembre, dans la chambre de la reine, a lieu un entretien à nouveau avec son fils. Là, la souveraine espère bien obtenir définitivement le renvoi de Richelieu. Renvoi auquel toute la cour s'attend. Richelieu souhaite entrer dans la chambre de la reine pour obtenir une audience. On lui en interdit le passage. Là, le cardinal a une idée génial, c'est que connaissant très bien le palais, il quitte l'antichambre, va à la chapelle du palais et emprunte un escalier dérobé qui permettait de gagner directement la chambre de la reine. Le verrou n'ayant pas été tiré, la porte est libre d'accès. Richelieu fait irruption dans la chambre où se trouvent la reine-mère et Louis XIII. La reine, le voyant arriver de manière impromptue, se déchaîne et lui reproche sa trahison politique, d'être un mauvais sujet et d'amener le roi à une mauvaise politique. Le roi semble hésiter. Il hésite finalement entre l'affection et le respect qu'il doit à sa mère et l'attachement qu'il a aussi au cardinal, qui s'avère depuis 1624 être un excellent serviteur. Il conseille tout de même au cardinal de se retirer à Pontoise quelques jours afin de calmer l'atmosphère de plus en plus tendue. Richelieu serait tombé à genoux en pleurs en demandant pardon et en demandant de maintenir sa confiance. Richelieu quitte ensuite la chambre et, pour toute la cour, cet entretien est celui de la dernière occasion de maintenir Richelieu au pouvoir. Il semble bien que la disgrâce soit inévitable. Le roi, néanmoins, demande à Richelieu de venir à Versailles, où il s'est retiré dans le petit pavillon de chasse construit par Henri IV, son père. Richelieu hésite quelques instants. Faut-il vraiment aller à Versailles? Risque-t-il l'arrestation? Il a un doute. Son ami et fidèle, le cardinal Lavalette, lui explique qu'au contraire, s'il n'y va pas, c'est là où il sera perdu, et qu'il faut au contraire aller à la convocation royale. Richelieu se rend donc à Versailles. Et là, retournement de situation. Alors que tout un chacun estime que Marillac va devenir le principal ministre, eh bien, Louis XIII confirme Richelieu au poste de principal ministre du Conseil. Ainsi, ce moment politique, qui a des aspects rocambolesques, est en fait un moment très important dans les choix que la monarchie française a effectués en ces années 1620-1630. En maintenant Richelieu au pouvoir, Louis XIII choisit le parti de la lutte contre les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg d'Autriche. Donc, le risque éventuel d'une guerre, puisque l'Europe est plongée depuis 1618 dans ce que les historiens vont appeler la guerre de 30 ans. Il s'agit bien d'un vrai choix politique effectué par Louis XIII. Que sont devenus ensuite les acteurs de ce psychodrame? Marie de Médicis s'est retirée à Compiègne. Elle va être sous surveillance, mais finalement s'évadera le 19 juillet 1631 pour les Pays-Bas espagnols. Elle ne reviendra plus sur le sol français et elle mourra à Cologne le 3 juillet 1642. 5 mois avant Richelieu et 10 mois avant son fils. Richelieu, que l'on a cru abattu en ce mois de novembre 1630, est finalement resté au pouvoir jusqu'à son décès. Et alors que tout le monde s'attendait le 12 novembre 1630 à la disgrâce du cardinal, il a pu se maintenir, ce qui a fait dire au conseiller d'État Guillaume Bautru, c'est la journée des dupes.